Pendant cette deuxième phase de déconfinement, France Culture continue de rediffuser un certain nombre d'émissions. À l'occasion de la réouverture du Musée de l'Homme à Paris le 24 juin dernier, nous vous proposons de réentendre une émission qui a été diffusée initialement le 5 janvier 2020. Bienvenue dans l'émission culinaire de France Culture qui vous souhaite à toutes et tous qui nous écoutez plein de bonnes choses. Les bonnes choses, c'est 30 minutes tout compris, un plat du jour, une madeleine, une cerise sur le gâteau présenté aujourd'hui par l'ami Pierre Hiverna. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Directeur de la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale, notre partenaire, vous nous proposez chaque semaine ou presque la cerise sur le gâteau aujourd'hui.
Et aujourd'hui, je vous emmène à Chicago, à la rencontre d'un personnage absolument passionnant, un ami de Bill Gates.
Bonjour Matteo Caranta.
Bonjour Caroline.
Qui donc nous raconte sa madeleine ?
Je suis allé rencontrer la chanteuse Jeanne Chéral.
À tout à l'heure donc, à 12h15. Et aujourd'hui, nous vous emmenons au Musée de l'Homme, place du Trocadéro à Paris, visiter une exposition faite pour les bonnes choses. En ce sens qu'elle aborde l'alimentation sous un prisme transdisciplinaire et qu'elle offre aux visiteurs une sorte de grand banquet ethno-scientifico-culturel. Visite donc en compagnie du biophysicien Christophe Lavelle, qui est chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle et surtout passionné de gastronomie. Bonjour Christophe Lavelle.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de nous faire la visite de cette exposition dont vous êtes le commissaire scientifique au Musée de l'Homme. Je mange donc je suis. Une exposition qui a pour ambition, un peu comme les bonnes choses en fait, d'avoir une approche transdisciplinaire, passé, présent, futur. Hein, on commence dans les temps anciens et on termine, on ne sait pas quand est-ce que ça va advenir, mais très prochainement sans doute. Et puis d'aborder tous les temps géographiques, c'est un espace spatio-temporel assez large. Trois temps, trois salles disons,
ouais.
Avec une scénographie qui correspond à ces trois espaces.
Trois espaces, donc trois ambiances. On a voulu, et quand je dis on, c'est aussi et surtout Marie Merlin, donc la commissaire muséographique qui a travaillé avec moi. Et on a voulu vraiment avoir ces changements d'ambiance qui correspondent aussi à un changement d'échelle. En fait, la première salle, c'est l'échelle de l'homme, l'individu, la nourriture, le goût. Quand je dis l'homme, c'est homme et femme, c'est l'humain.
L'être humain. Ouais.
Et la deuxième salle, beaucoup plus lumineuse, où là on rentre à l'échelle de la société. Donc c'est les rapports entre individus, c'est comment se construisent des manières de table, des manières de cuisiner, l'importance de la religion, la gastrodiplomatie, enfin tous ces sujets qui sont des constructions collectives. Et puis, troisième ambiance, troisième salle, où là c'est l'échelle de la planète. Qu'on attend évidemment pour aborder les sujets qui sont beaucoup plus autour de la production alimentaire, que ce soit l'élevage, que ce soit l'agriculture ou la pêche.
Et, production donc, et consommation.
Donc production et puis derrière évidemment consommation de cette production.
Vous disiez trois ambiances parce que là on est dans le premier acte.
Voilà,
très théâtral. D'ailleurs, voilà, on peut parler d'acte parce que c'est.
On est dans le premier acte, voilà, une ambiance un peu sombre, théâtrale, des rideaux rouges, murs noirs. Des vitrines rétroéclairées. Nous, on est vraiment dans cette, presque dans une, pour imaginer dans une bijouterie ou dans ces ambiances un peu feutrées où on va mettre en avant un certain nombre d'objets puisque dans cette exposition, Musée de l'Homme et Maison Mère, Muséum National d'Histoire Naturelle, avant tout, ce qu'on a voulu montrer, ce sont des objets issus de nos collections. Plus de 60 millions d'objets dans nos collections. Donc dans ces 60 millions, on en a sorti environ 300. Qui, pour la plupart d'entre eux, sont pour la première fois exposés au public et qui sont mis en scène pour raconter une histoire. Raconter une histoire autour de ce fil conducteur qu'est l'alimentation.
Alors, il y a des objets, par exemple, à notre droite, là, les nourritures préhistoriques.
Oui.
D'où vient la nourriture, les premiers temps des hommes? Qu'est-ce qu'on savait de la façon dont ils se nourrissaient? Il y a pas mal de crânes.
Oui,
il y a
des crânes, des dents, des os, des bouts d'outils, des parures aussi, de manière plus inattendue peut-être. Parures faites à partir d'aliments ou des dessins. Gravés représentant des poissons ou des mammifères. Et ça nous semblait logique au Musée de l'Homme de démarrer par la préhistoire, chose qu'on étudie le plus. Et en même temps, on a voulu découper lui-même ce pôle pour un peu casser certaines idées conçues. Savoir, on imagine avant tout l'homme préhistorique comme peut-être un chasseur, mais il était aussi évidemment cueilleur, donc on avait une importance de l'aliment omnivore, bien entendu, et ne pas oublier la pêche. Donc on a vraiment montré ce pôle, toutes les sociétés littorales, évidemment, s'alimentaient avant tout de mollusques, de ce qu'ils pouvaient récupérer. Et tout ça fait partie, donc ce sont des choses qu'on peut analyser et qu'on retrouve dans les traces de dents, qu'on retrouve dans les objets laissés sur les chantiers de fouilles, qu'on retrouve éventuellement des micro-restes alimentaires fossilisés. Et tout ça permet aux archéologues et aux paléontologues de remonter la chaîne et d'avoir des idées la plus précise possible sur le régime alimentaire de ces...
Alors ça, c'était à notre droite, oui. Christophe Lavelle. À notre gauche, on a la fabrique du goût.
On a la fabrique
du goût. Je me souviens d'une émission qu'on avait faite ensemble l'année dernière, que les auditrices et les auditeurs peuvent retrouver, bien sûr, sur franceculture.fr. Qu'est-ce que le goût ? Donc, on ne va pas s'arrêter très longtemps sur ces quelques vidéos que vous nous montrez. On va avancer dans cette première salle, disons, corps et nourriture. On laisse aussi sur notre gauche l'alimentation et le genre, une émission qu'on a aussi faite il n'y a pas très très longtemps, nourriture féminine, nourriture masculine. C'est aussi très ludique, votre exposition, parce qu'il y a des affiches, il y a des objets, et puis il y a aussi de l'interaction, comme ce qu'on voit là.
Tout à fait, qui est côté ludique, dans le sens qu'on décide un peu de
la
section,
on peut toucher,
on peut choisir si on veut regarder un porc ou une vache ou des insectes. Et tout ça est traité pour montrer à quel point, et ça permet aussi de faire la transition avec la deuxième salle, c'est pour montrer à quel point l'alimentation est aussi culturelle, très culturelle.
Donc il y a des questionnements qui tiennent de la science,
il
y a des questionnements qui tiennent aussi de la culture, de l'imaginaire, également, voire vraiment des pratiques culturelles. Là, on vient d'arriver dans
la deuxième salle. On a une ambiance
culture comestible au pluriel, justement, déjà.
Les cultures, tout à fait.
Changement d'ambiance. On a déjà la reproduction comme d'une mise en scène, d'un cérémonial,
d'un intérieur.
De l'igname.
Exactement, une case, une maison des Abelham en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont un peuple qui ont cette culture de l'igname. Et quand je dis culture, c'est vraiment ce rapport sacré à l'aliment. Lors de la récolte, il y a un cérémonial. Lors de la préparation, il y a un cérémonial. Lors de la consommation, il y a un cérémonial. Donc tout cela est extrêmement codé. D'une certaine manière, forge les rapports dans la société.
Et c'est ce qu'on a voulu représenter. L'igname représente la chair des ancêtres.
Exactement.
Alors,
consommer l'igname, c'est pas anodin.
C'est communier avec
l'ancêtre. Et donc, on va lui mettre un masque. Il y a des statuaires, des accoutrements de danse qui font référence à l'igname. Et tout ça fait partie de cet acte qui va bien au-delà d'un pur acte de consommation.
Manger magique,
Manger magique, c'est exactement ça.
Cet espace dans l'espace, Christophe Lavelle. On avance parce que c'est une exposition extrêmement riche avec énormément d'œuvres qui sont parfois des
contemporaines, avec des projections de photos, des tableaux.
Vidéos, et puis représentations, par exemple, d'aliments cultes. Alors, on voit beaucoup le biscuit, le pain,
qui est un pain qui sont à peine dédiés à la consommation, effectivement, puisque on a beaucoup plus ce côté aliment presque totem. C'est un pain qu'on va offrir à un moment donné de la vie pour une cérémonie particulière, qui va peut-être rester sur la cheminée pendant des années. On est là aussi à la frontière de l'aliment et de l'objet de culte, justement. Bon, et puis évidemment l'hostie, le calice, qui font un peu écho à aux photos de la scène,
différentes représentations
de la scène, bien sûr,
dans l'histoire. Ouais. Et c'est ainsi qu'on arrive aux manières de tout est au pluriel,
parce que les pratiques sont plurielles, les manières sont plurielles.
Ouais. Voilà, les pratiques culturelles sont extrêmement diverses et variées. Là, vous avez voulu mettre en scène des manières de table différentes, que ce soit manger avec des baguettes,
que ce soit manger debout, au bureau, à la va-vite.
Donc là, par exemple, on peut s'asseoir sur le tatami.
Oui, tout à fait.
On n'a rien à manger quand même, dans les petits bols,
il
n'y a pas
de riz. Dans un musée, c'est un peu compliqué de donner à manger, mais on aura des dîners qui seront organisés.
Ah,
oui.
Vous faites des banquets.
On fait 4 grands banquets qui permettront de dîner
ouvert
pour de vrai. Ouvert au public, bien entendu, sur inscription, un mois à l'avance, 150 personnes à chaque fois.
Bon, donc si on circule dans ces différentes manières de table et qu'on quitte manger avec les baguettes, Christophe
Lavelle. Au milieu, on a mis la table au milieu. Effectivement, quand je dis la table, c'est encore une fois, ça peut être le bureau, ça peut être le tapis, comme en Algérie pour la cérémonie du thé qui se déroule assis par terre, enfin sur un tapis. Le kalilima, qui est une espèce d'équivalent du food truck, où il y a plus une charrette ici qui va permettre de manger debout dans la rue. Et autour, ces fameux hublots qui scénarisent en fait une ambiance cuisine, un peu comme si on avait un regard à travers le hublot de la cuisine.
Et
comment est-ce qu'on prépare l'aliment
Comment on l'emporte
et comment on le sert, comment on dresse éventuellement. Donc c'est vraiment, on a remonté toute la chaîne gestuelle de l'aliment brut jusqu'au plat prêt à consommer.
Quoi. Et on parlait de services, que ce soit le service à thé, que ce soit la cérémonie, donc la du thé, oui. Mais que ce soit les manières de table avec les baguettes,
oui.
Le service tel qu'on peut le découvrir dans différentes cultures, y compris chez nos plus grands,
oui.
Puisque vous avez été chercher à l'Élysée,
on a été
en France, mais à l'Élysée, quelques exemplaires du service de table.
Oui,
pas n'importe
services,
lequel, le service du Plessis dit service aux oiseaux.
Oui, parce qu'en fait, ils ont 7 services à l'Élysée qui leur permettent de servir leur grand dîner d'État. Et dans ces 7 services, on a choisi celui-là parce que celui-là a un lien direct avec le muséum, puisque sur chaque assiette est représenté un motif d'oiseau issu de l'histoire naturelle de Buffon. Le clin d'œil était important pour nous, montrer que le muséum est présent au cœur des plus hautes instances de l'État dans ces dîners qui accueillent les plus grands de ce monde.
Le muséum est très présent également par un objet qui n'est pas n'importe quel objet, Christophe Lavelle.
Tout à fait.
Que vous êtes très fier d'avoir pu sortir des tréfonds du musée et d'exposer là.
Qu'on a pu, effectivement, et que ce n'était pas évident parce que ce n'est pas anodin. D'une part, il s'agit d'un crâne. Alors, bon, dans la préhistoire, on a l'habitude d'exposer. Là, il s'agit d'un crâne un peu plus contemporain, 1833, pour la mort de l'individu en l'occurrence. Et donc, il s'agit surtout d'une personne identifiée, puisqu'il s'agit d'Antonin Carême. Et là, ça pose une seconde question, exposer un crâne identifié. Donc, il faut savoir que Carême n'a pas d'ayant droit. Carême était le...
On dit le roi des cuisiniers.
Le roi des cuisiniers, cuisinier des rois.
Et
donc,
des rois.
Célébrissime dès son époque. Père de ce qu'on appelle aujourd'hui la haute cuisine ou la haute pâtisserie française, pas mal de disciples, dont Jules Gouffet, dont on expose aussi les œuvres, et puis Escoffier un peu plus tard, qui s'est beaucoup inspiré de Carême. Tout ça sont des grands noms qui ont fait la construction de la cuisine française, et donc il nous paraissait cohérent dans cette salle où on termine par l'art culinaire d'exposer sans doute un des plus grands avec son œuvre, bien entendu, puisque à côté il y a les illustrations issues des ouvrages de Carême. Et puis en face...
Il a inventé la toque et
il a inventé
la pièce montée.
Oui,
donc
le côté fastueux.
Donc on met en regard une pièce montée qui est d'un artiste contemporain, cette fois.
Tout à fait, Gilles Barbier.
Alors, c'est très envie. Hein, parce que cette pièce montée, quand même, c'est du chocolat.
C'est plus une fontaine. Voilà, c'est pas vraiment une pièce montée, en fait. C'est vraiment
une fontaine
au chocolat.
T'as raison. C'est une fontaine en chocolat, mais enfin, il y a des fruits.
Oui, il y a plein de gâteaux.
Raisins,
des
bananes, des poires, des fraises.
C'est un peu orgiaque.
Il y a beaucoup d'enfants dans cette exposition, on l'entend d'ailleurs.
Tout à fait.
Et beaucoup d'enfants ont très envie, et les grands-enfants aussi, hein, ont très envie d'aller au moins piquer un petit carré de
chocolat.
Très envie
d'aller arracher un morceau de chocolat en plastique, mais non, on veut que cette œuvre tienne jusqu'à la fin de l'exposition.
Et Christophe Lavelle, si on se retourne, il y a quand même quelque chose qu'on a passé, je ne voudrais pas qu'on change de salle sans s'arrêter, on va peut-être faire quelques pas en arrière. Il y a quelque chose qu'on a passé, qui est la mise en scène, cette fois, d'une cuisine particulière, d'un pays particulier, qui est le Mexique. Vous accordez une place très importante à la cuisine mexicaine, avec tout un tas d'objets exposés, objets, bouteilles, aliments. Pourquoi donc cette importance accordée à la cuisine mexicaine ?
Effectivement, parmi les 196 pays, il a fallu en choisir un, et ce n'est pas anodin. Déjà, évidemment, il s'agissait de mettre en avant un pays qui a une culture gastronomique quand même particulièrement développée. Et le Mexique fait partie de cela. Et c'est le clin d'œil aussi, ici, on est dans un dispositif qui parle des patrimoines. Il se trouve qu'en 2010, souvent, on sait qu'on se souvient ou pas que la France a fait cataloguer par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité le repas gastronomique des Français. Dans ce repas gastronomique, ce qui est intéressant, c'est ce qui a été labellisé par l'UNESCO, c'est les manières de table, d'échange, de parler, mais pas la cuisine du tout. Or, la même année, 2010, le Mexique a fait labelliser sa cuisine. Et ce qui montre l'importance qu'ils ont aussi à travers leur patrimoine culinaire, l'importance des procédés, des manières de cuisine, mais aussi des produits. Il y a énormément de variétés de maïs, de variétés de haricots. On connaît souvent la tequila, ou là ou le, on dit les deux, tequila, mais il y a aussi le mezcal, et qui sont à chaque fois des produits extrêmement variés, en fait, poussés un peu plus ou moins sophistiqués dans les manières de les cultiver et surtout de les préparer. Et il nous semblait important de rappeler cette notion de patrimoniale à travers un pays emblématique de, justement, de cette volonté de valoriser une cuisine, valoriser des produits, et puis rappeler au passage que tous ces produits sont des produits qui nous paraissent familiers, comme le maïs et les haricots, mais ils ont une histoire, et en l'occurrence, une histoire qui est très très liée au Mexique. et pour lesquels on a beaucoup de chercheurs aussi au sein du Musée de l'Homme, dont le terrain de recherche est basé au Mexique.
Alors, de cette manière de table et de cet art culinaire, nous allons passer à une autre façon d'aborder l'alimentation, Christophe Lavelle, qui est peut-être plus internationale, plus universelle de nos jours. C'est l'endroit où l'on fait ses courses. Puisque vous avez, dans la troisième salle vers laquelle on va se diriger, vous avez scénographié un grand supermarché. On va écouter la Madeleine, et puis pendant ce temps, nous, on va se diriger vers le supermarché. On vous retrouve d'ici quelques minutes.
À tout de suite.
Matteo Caranta, vous êtes donc allé voir une chanteuse.
Oui, la chanteuse Jeanne Chéral qui commence l'année avec une tournée et où elle présentera son dernier album L'An 40. Pas en référence à L'An 40, la guerre, mais plutôt à son âge comme un moment d'équilibre créatif entre l'accompli et l'avenir. Et bien pour ça, Madeleine, elle a choisi un plat pas forcément très équilibré, mais qui marque pour elle le temps des fêtes.
Ma madeleine, c'est un plat que ma mère faisait au moment de Noël et qu'elle continue à faire de temps en temps justement pour nous cocooner. Ça s'appelait la macaronade. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est quelque chose qu'on a dû connaître pendant des vacances dans le sud de la France, ou je sais même pas. Elle prend des macaronis, elle fait à côté une espèce de sauce à base de sauce tomate et dedans elle met des petits morceaux de chipolata coupés en rondelles, des petits bouts de poitrine fumée, des champignons de Paris. Je pense qu'elle met des petites herbes et elle mélange tout ça. Elle nous fait des grosses assiettes creuses et on recouvre ça de gruyère râpée. Dans l'assiette, visuellement, la dominante, c'est orange foncé, un peu rouille en fait, par la sauce tomate. Et la texture, c'est une texture dans laquelle on a envie de mettre les mains en fait. J'aime bien mettre les mains dans de l'argile, dans de la boue, dans des choses molles et un peu visqueuses. Et la macaronade, c'est un peu comme ça, c'est un peu visqueux, mais un bon visqueux. Je pense que la note dominante, c'est les petits lardons ou la poitrine fumée. C'est ça qui domine, le petit goût fumé. Mais moi, ce que je préférais, c'était, et ce que je préfère toujours d'ailleurs, c'est les petits champignons, qui sont imbibés de sauce, en fait. Pour moi, c'était comme des petits poissons rouges, en fait, sous la langue. En fait, il y a une grosse marmite de macaroni, et à côté, une grosse marmite de sauce. Et tout le jeu, c'est de bien doser son nombre de macaronis et sa dose de sauce et de bien mélanger ça et de bien recouvrir de gruyère pour que ça fasse des fils. Bon, c'est pas un plat, c'est pas très fin, hein, c'est pas très subtil, mais je suis pas issue d'une famille de grands gastronomes. On a jamais vraiment cuisiné des plats très compliqués et tout ça. Et j'ai jamais rencontré personne d'autre faire ce plat. Peut-être ma sœur, elle est un peu aventurière, elle invente toujours des gros plats comme ça, peut-être elle l'a refaite, mais moi j'ai jamais osé m'y attaquer. Mais ce serait bien pour mon fils que, voilà, quand je vais aller chez ma mère là pour les fêtes, je vais lui demander de me transmettre. Il est temps là, mon fils a 5 ans, il est temps que je lui fasse goûter la macaronade.
Merci Matteo Caranta pour cette madeleine du jour. On retourne quant à nous au Musée de l'Homme à Paris où nous avons fait en compagnie du commissaire scientifique, le biophysicien Christophe Lavelle, la visite de l'exposition « Je mange, donc je suis ». On avait dit avant la madeleine, Christophe Lavelle, qu'on se retrouverait dans un supermarché, mais avant le supermarché, il y a les champs quand même.
Oui, c'est-à-dire qu'avant de faire ses courses, il faut que quelqu'un ait produit l'aliment qu'on va mettre dans son panier. Donc on a voulu commencer cette dernière salle par les systèmes de production, que ce soit l'élevage, l'agriculture ou éventuellement la pêche, et avant de rentrer dans le supermarché.
Supermarché qui est symbolisé par un énorme caddie.
Oui.
Donc on va prendre notre caddie et puis on va voir ce qu'on y met dedans.
On va le remplir.
C'est organisé, cette dernière salle qui est donc consacrée à la consommation de la nature, aux enjeux mondiaux des modes de consommation et de production alimentaire. Organisé là aussi, découpé, disons, par différents produits, poissons, viande, eau, fruits et légumes.
Bien, en fait, jusque dans la scénographie, on a respecté d'une certaine manière ou mimé l'agencement d'un supermarché. C'est-à-dire qu'au supermarché, on va au rayon frais, au rayon fruits et légumes, on va au rayon viande, on va au rayon boucherie ou poissonnerie, on va au rayon boisson, on va éventuellement au rayon terroir, en fait, aliments du terroir, produits régionaux qui correspondent chez nous au pôle fermenté. et puis nouveauté, parce qu'il y a toujours un rayon nouveauté.
Oui, c'est vrai qu'on terminera par celui-là. Il y a quand même quelque chose qu'on a du mal à trouver dans un supermarché, oui. Mais qui est une sorte de fil rouge dans votre exposition, Christophe Lavelle, c'est des crânes.
Oui, on a
là,
bien les crânes.
Là, il y a un crâne de taureau, pas n'importe quel taureau, le taureau Joko Bene, oui. Qui est l'emblème de l'élevage moderne intensif.
Voilà,
en quoi.
Un bon taureau morbihanais.
Bonne tête, hein.
Une bonne tête de taureau, oui, tout à fait, ou en tout cas ce qu'il en reste. Et c'est l'emblème d'un modèle d'élevage intensif, dans le sens que Joko Bene a avant tout servi à donner sa semence pendant toute sa vie pour avoir quelque chose comme 300 000 descendantes qui avaient cet avantage d'être très bien calibrées pour la traite mécanisée. Elles avaient des pies qui se prêtaient parfaitement à la mécanisation. Donc le patrimoine génétique de Joko était précieux pour ça et a une sorte d'icône de cet élevage extrêmement intensif où tout est automatisé et tout est produit à la chaîne.
Je tourne la tête, Christophe Lavelle, et je vois un certain nombre de salades. Alors, certaines en sachets, d'autres issues de la terre, la vraie salade en vrai, quoi. Mais devant, surtout, il y a une énorme cloche. C'est quoi
une
cette cloche?
Cloche en verre, un peu incongrue, on dirait presque un dessus, comme dans une bijouterie, un peu. Alors, cette cloche n'est pas anodine. Comme on voit avec la photo qui est dessous, il y a une époque pas si reculée où il y en avait des milliers
dans les champs.
De cloches. Alors, dans les champs ici, c'est pas n'importe quel champ, c'est la ferme de Saint-Denis, la ferme maraîchère qui est aux portes de Paris, puisqu'on peut y accéder en métro, métro Saint-Denis. Université, et cette ferme a été montée au début du XXe siècle par la famille Kersanté, et le dernier maraîcher, donc René Kersanté, a pris sa retraite il y a maintenant 5-6 ans et a laissé la ferme à aujourd'hui donc partie poétique, zone sensible, Olivier Darnay, qui est avec son collectif d'artistes, a repris cette ferme pour en faire justement un lieu d'échange, d'éducation, de projet artistique.
La cloche, elle protégeait les salades.
Et la cloche, effectivement, qu'on a mise là, était une de ces cloches qui protégeait les salades. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un champ de cloches, et sous chaque cloche, il y avait une salade.
Très bel objet. Alors là, je me retourne, Christophe Lavelle, parce que là aussi, dans cette salle, hein, c'est très très riche, on ne pourra pas évidemment voir tout de cette exposition, mais c'est aussi l'idée de ces visites, et en l'occurrence en votre compagnie, on se retourne, et là, on est face à trois œuvres d'art d'un artiste qui a pour nom Liu Bolin, œuvre d'art assez extraordinaire, je dois dire, puisque Liu Bolin a cette particularité de se peindre dans le décor alimentaire. Donc, il est devant des carcasses de viande, mais il disparaît dans le décor. Il est devant des étals de fruits et de légumes, et on le voit à peine apparaître. Il est aussi peint devant des bouteilles d'eau.
Oui.
On est vraiment là dans la déclinaison littérale de votre exposition qui a pour titre « Je mange, donc je suis ».
Voilà.
Là, Liu Bolin,
là,
c'est exactement
une personnification de l'aliment avec les trois pôles qu'on va retrouver, la viande, les légumes et l'eau. Voilà, évidemment, c'est un clin d'œil, c'est une performance artistique, mais qui en dit long aussi sur une certaine vision de notre rapport à l'aliment. Et cette ingestion, ici imagée, incorporation des aliments en question.
Avec des drôles d'aliments. Bon, là, on a des bouteilles d'eau en plastique qui sont mises en regard, effectivement, avec des bouteilles d'eau du monde entier.
Du monde entier, parce que ce sont des objets de collection aussi, il faudra voir que
presque
quand on pense...
un jour, ça sera des objets du passé, quoi.
Oui, hein. Et puis ce sont. Alors, il y en a qui ont plusieurs dizaines d'années, effectivement, ou même plus pour les pots engrais ou des contenants un peu plus. Ethno,
mais il y en a une autre très très chère, hein.
Oui,
nous avec des diamants dessus qui vaut une fortune dans sa bouteille. Bon, on avance, on passe devant une table des produits fermentés.
Tout
on a
fait.
Consacré une émission
correspond à ce qu'on appelle le terroir, donc
à ce sujet, il n'y a pas
vin,
très très longtemps,
fromage, etc.
sur la fermentation.
Voilà.
Et on arrive donc au dernier temps. Vous appelez ça le secteur des nouveautés,
oui.
Dans votre supermarché,
tout à
Christophe
fait.
Lavelle. C'est les aliments du futur. Alors, on a des insectes, on a de la viande de synthèse, on a des produits OGM, et puis on a devant nous ce que vous appelez les aliments déstructurés. Ceci est une charlotte aux fraises, c'est un berlingot dans du carton. Ceci est une assiette de fromage, on a une petite soucoupe avec une gélule dedans. Ceci est une blanquette de veau et c'est une bouteille remplie de poudre.
Oui.
Non, ça, c'est vrai, c'est pas ça quand même l'alimentation du futur.
Eh bien, alors il y en a qui disent que c'est ça, j'espère que ça ne sera pas ça. Cette alimentation, elle existe déjà, mais c'est beaucoup plus une alimentation d'expédition. Quand on part faire le tour du monde à la voile ou qu'on part au pôle Nord, ça peut être très pratique. Après, au quotidien, ça serait dommage de se nourrir de berlingots, de pilules et de poudre. Il faut y réfléchir.
Comme il faut réfléchir aux insectes, à la viande.
Alors,
de synthèse.
L'insecte, c'est emblématique de ce qui n'est pas du tout du futur, puisqu'il y a déjà 2 milliards de personnes qui s'en régalent tous les jours, mais ça pourrait devenir du futur pour ceux qui, actuellement, n'en mange pas.
La boucle est bouclée, hein, Christophe Lavelle, puisque revient à la mode la cuisine préhistorique aujourd'hui, que on redécouvre les vraies salades, les vraies tomates et les bienfaits de cette cuisine. Donc, on oublie peut-être tout ça, sauf pour certaines vertus thérapeutiques ou certaines vertus économiques dans certains pays.
Oui, puis le plaisir n'est pas forcément présent. Il ne faut pas oublier, on revient sur cet aspect de nourriture qui est aussi culturel et l'importance hédonique de l'alimentation dont on ne peut pas se passer si on veut vraiment envisager une alimentation du futur qui soit viable.
Merci beaucoup Christophe Lavelle.
Merci à vous.
Je mange donc je suis, c'est une exposition accompagnée d'un livre qui est un petit dictionnaire curieux de l'alimentation qui est extrêmement bien fait, auquel vous avez participé également Christophe Lavelle. On retrouve tout de suite la cerise sur le gâteau. Nous aussi on a de la suite dans les idées. Vous nous avez promis, Pierre Hiverna, de nous emmener à Chicago rencontrer un ami de Bill Gates.
Oui, oui, Caroline. Et d'ailleurs, ce faisant, j'ai voulu d'une certaine manière prolonger l'exposition « Je mange donc je suis » que l'on vient de visiter en y ajoutant une pièce qui n'y est pas, du moins pas encore. Car comme on vient de le voir, l'exposition est chronologique et se termine donc avec plus de questions que de réponses sur ce que nous allons manger ou pas dans un futur proche ou dans des temps plus lointains. Et il se trouve que l'occasion m'a été donnée récemment de faire un reportage à Chicago et d'y faire une rencontre peu banale. Le gars s'appelle Thomas Jonas et a fondé une entreprise qui s'appelle Sustainable Bioproducts, que l'on pourrait traduire en français par « produits bio durables », mais sans que ce nom puisse nous renseigner vraiment sur l'ampleur de sa trouvaille pour nourrir près de 10 milliards d'humains qui devraient peupler notre planète en 2050. Revenons quelques années en arrière pour que je vous raconte cette histoire qui a l'air d'un scénario d'un film futuriste. Thomas Jonas est avec un ami, scientifique, dans le parc national de Yellowstone, dans le Montana, au pire endroit qui soit, le plus volcanique, des geysers de partout, du soufre à la pelle, c'est irrespirable, il fait très chaud, et en toute logique, toute forme de vie a disparu. Et puis non. Les deux compères découvrent qu'une bactérie a su développer des stratégies pour survivre et se développer dans cet enfer. Intéressant, mais il faudrait un peu d'argent pour faire des recherches et en savoir plus. Thomas Jonas trouve le partenaire évident, la NASA. On développe la chose en labo qui s'avère produire des fibres, des huiles et des micronutriments avec de la vitamine B12, celle qui manque aux véganes, de la vitamine D, du fer et du calcium. Bon, pas mal pour aller survivre sur la Lune ou sur Mars, mais côté nourrir l'humanité... Mais attention, la bactérie n'a pas dit son dernier mot. Elle se développe à une vitesse supersonique en produisant un tissu fibreux riche de 50% de protéines. Bingo ! Cette fois-ci, la NASA n'y suffira pas parce que Thomas, son projet dans la vie, c'est d'être utile pour la planète de nos petits-enfants qui craquent de partout. Il prend ses résultats de labo et va entretenir Bill Gates de sa trouvaille, lequel part au quart de tour, passe que quelques coups de fil à ses amis de sa fondation, et 33 millions de dollars plus tard, voilà notre Thomas de retour à Chicago, dans ses bureaux, où une quarantaine de collaborateurs s'agitent en pleine construction d'une usine de plus de 3000 m² qui devrait être opérationnelle d'ici la fin de 2020. Alors, secret des affaires oblige, l'histoire n'est évidemment qu'à son point de décollage. Mais l'enthousiasme des acteurs et l'échelle de développement laissent présager une petite révolution. Parce que, comme le montre l'exposition « Je mange donc je suis », si de nombreux projets sont aujourd'hui en passe de révolutionner notre façon de consommer de la viande, peu de découvertes majeures comme celle de Thomas Jonas permettent d'imaginer à partir d'une substance 100% bio et naturelle et développable à bas coût en laboratoire, une révolution mondiale de notre consommation de protéines et de nutriments essentiels.
C'était la chronique de Pierre Hiverna à retrouver sur franceculture.fr et sur alimentationgénérale.fr. Les bonnes choses se poursuivent en réécoutant en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Stéphanie Villeneuve, Roxane Poulain, Matteo Caranta, Jean-Christophe Francis. Merci à Georges Thau qui a assuré la prise de son dans l'exposition « Je mange, donc je suis » dans un instant le journal.